La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Le texte que nous vous invitons à lire se trouve dans Marc 10, les versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen.
Voilà une histoire qui se termine bien. Voilà un homme aussi qui m'interpelle, Bartimée, l'intrépide, rien ne l'arrête. Personne ne peut l'empêcher de rencontrer Jésus. Le récit se déroule à Jéricho. Pour ceux qui n'auraient pas encore ouvert leur Bible, c'est au chapitre 10 de l'Évangile selon Marc, au verset 46. Jéricho est une ville située à 25 km au nord-est de Jérusalem, donc pas très loin de la capitale. Jéricho est le lieu d'une célèbre bataille, une bataille remportée, vous vous en souvenez, par la foi. Et non par la force des armes ou par la stratégie humaine. D'emblée, on nous laisse entendre qu'il sera question de foi en la puissance de Dieu dans ce récit. Et effectivement, Jésus dira au verset 52 « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue pour suivre Jésus dans le chemin. Bartimée, nous dit-on, est le fils de Timée. Timée. Alors, dans son sens hébraïque, ce mot veut dire celui qui est intègre, celui qui est entier, celui qui est droit. En gros, Timée honorait, si l'on s'en tient à son nom, honorait son Dieu tout comme Job. Bartimée, fils de Timée. Là, il y a un paradoxe. Bartimée serait le fils de l'homme intègre alors qu'il est aveugle. Vous savez, quand on offrait un animal en ce temps-là, on s'assurait qu'il était justement intègre, tam, hein, ce mot qui a donné timé. On vérifiait que l'animal était intègre, c'est-à-dire qu'il ne lui manquait rien, qu'il n'était pas abîmé, qu'il n'était pas boiteux, qu'il n'était surtout pas aveugle. Bartimée, lui, était aveugle. En outre, il était mendiant. Sa condition n'était donc pas très enviable. Il dépendait de la générosité des passants. Il tendait la main en espérant recevoir de temps à autre une pièce, un peu de nourriture, un vêtement. Sa condition, transposé sur un plan spirituel, pourrait nous rappeler celle d'une église dont parle l'Apocalypse, qui est décrite comme étant malheureuse, misérable, pauvre, aveugle, et le texte ajoute nu. Bartimée était tout cela en quelque sorte, sauf nu. Il avait un manteau. Bartimée était assis avec son manteau au bord du chemin. Sa cécité ne lui permettant pas d'avancer au milieu du chemin. Il avait d'ailleurs besoin qu'on le guide, qu'on l'accompagne. Il était dépendant. Être au bord du chemin, c'est être passif. C'est attendre que les autres fassent quelque chose pour soi. C'est être dans la demande. Peut-être dans l'exigence. Puisqu'en ce temps-là, l'aumône était considérée comme une bonne œuvre. Et on peut supposer que Bartimée exigeait qu'on lui donne quelque chose. Puisque lui était dans le besoin. Et que d'autres avaient tout ce qu'il leur fallait. Il était au bord du chemin, dans une situation de manque et de frustration. Une frustration et un manque permanent, en fait. Bartimée avait certainement le sentiment que partagent ces gens-là qui sont en train de mendier, de demander aux autres quelque chose, de solliciter leur bon vouloir. Il a certainement un sentiment de déshonneur. Alors là aussi, hein, y a un petit jeu de mots, parce qu'en grec, timé, c'est l'honneur. Tout dépend si on se reporte à des origines, enfin une étymologie hébraïque possible ou une étymologie grecque possible, mais timé, littéralement en grec, c'est l'honneur. Alors, pas de chance. Et il semblait ne pas être à sa bonne place, Bartimée. Il aimerait pouvoir subvenir dignement à ses besoins, vivre comme les autres, ne pas dépendre d'eux. Il aimerait pouvoir faire preuve de son intégrité physique et spirituelle devant Dieu, échapper à ses regards accusateurs, qui lui faisait sentir que peut-être c'est parce qu'il avait péché aussi qu'il était aveugle. Et vous savez qu'avec ce défaut-là, il ne pouvait pas pénétrer dans le temple, à l'intérieur de l'enceinte réservée aux justes. Et le récit bascule au moment où il entend que Jésus passe là, tout près de lui. Alors c'est l'émoi, il y a du bruit, le brouhaha de la foule est de plus en plus fort. Et c'est là qu'il montre ce qu'il a dans le ventre, ce Bartimée. C'est là qu'on découvre que Bartimée n'est pas un mendiant comme les autres. Ce n'est pas un aveugle qui, quelque part, se complaît dans cette situation-là et qui se dit, après tout, il faut aussi des pauvres et des aveugles dans ce monde, donc je sers à quelque chose. À tout le moins, je sollicite la pitié des autres. Mais non, entendant parler de Jésus, sachant que Jésus avait déjà guéri des malades, rendu la vue à des aveugles, eh bien il se mit à crier de toutes ses forces. Et là, remarquez qu'il dérange. Curieusement, on était habitué à ce Bartimée tranquille au bord du chemin, inoffensif en quelque sorte. Et maintenant, il nous casse les oreilles, Bartimée. Il crie plus fort que les uns et les autres ne parlent, et on entend « Fils de David, aie pitié de moi !» Curieusement, au lieu de l'encourager et dire « Vas-y, appelle, certainement qu'il t'entendra et te recevra », on lui demande de se taire. Ça, c'est quand même quelque chose. On était tellement habitués à un Bartimée tranquille dans son coin, faisant pas de bruit, justement, ne criant pas, n'ouvrant pas la bouche, hein, l'homme passif, dépendant, que tout d'un coup, son cri gêne. « Tais-toi, Bartimée. Pourquoi tu appelles Jésus ? Il est très occupé, tu sais. » Plusieurs, et ce n'est pas qu'une personne, mais plusieurs le reprenaient, certainement avec un ton de reproche, pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Je pense qu'il n'a pas crié que deux fois cet appel au secours. Jusqu'à ce que Jésus l'entende, s'arrête et dise « Appelez-le !» Trois points doivent être soulignés ici concernant Bartimée. Tout d'abord, sa lucidité quant à son état. Il est conscient de ses besoins. Il va vers Christ, il crie à Jésus en tentant d'émouvoir sa pitié. Il a besoin de lui. Deuxièmement, il a foi en la puissance de guérison de Jésus. Il se doute que Jésus n'est pas quelqu'un comme les autres puisqu'il l'appelle fils de David. Pourquoi insister sur sa filiation ? Pourquoi rappeler qu'il est le descendant de David ? Il aurait pu simplement dire Jésus de Nazareth. Mais non, Jésus, fils de David. Il espérait peut-être en Jésus Messie. Et troisièmement, il est persévérant. On ne l'arrête pas si facilement. Les personnes qui le rabrouent ne le découragent pas. Et là, je lui tire ma révérence. Parce que on se laisse, soyons honnêtes, facilement décourager. N'est-ce pas ? Il suffit que quelqu'un fasse une critique à votre rencontre, une petite remarque, et hop, vous dites si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on est tenté de faire ? On se retire et on revient à sa place. Voire même, on quitte sa place. Bartimée, non, ne quitte pas sa place. Au contraire, il va encore plus loin. Il dit, non, je ne vais pas me rasseoir. Je suis debout et j'avancerai, même si je ne vois rien. J'avancerai. J'aime ça. En cela, devenons des Bartimées, même aveugles. Avançons. Allons de l'avant. Si Jésus passe, il ne faut pas rater la rencontre avec lui. Jésus n'est pas sourd à nos appels. Il entend même nos soupirs. Ah, Bartimée, lui, a crié fort. On l'a entendu plusieurs centaines de mètres à la ronde, probablement. Mais nous, si nous exprimons un désir, nous le savons, Dieu l'entend. Et même si ce désir reste caché au fond de notre cœur, Dieu l'entend. Donc, Jésus entend Bartimée et le fait approcher. Et là, curieusement, à ce moment-là, puisque c'est Jésus, on s'excuse. Allez, tu peux y aller. Qu'est-ce que les hommes et les femmes de ce siècle sont versatiles, n'est-ce pas ? Jusque-là, non. Tu n'as rien à faire avec Jésus. Il suffit que les circonstances changent. Voilà que Jésus s'arrête, fait appeler Bartimée. Et maintenant, si, vas-y, viens, on va t'aider. On est même un peu gêné d'avoir fait obstacle à la guérison de Bartimée, celle qu'il espère pour le moment. Alors, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Voilà une bonne parole. Voilà une bonne parole, les uns pour les autres ici. Plutôt que de dire, reste dans ton coin, ne fais rien, ne bouge pas. On te connaît comme ça depuis des années. Hein ? Ne fais pas de propositions, ne bouscule pas nos habitudes. Je crois que Jésus appelle chacun de nous à le servir. Et tous nous avons été appelés à le servir, tous nous avons été appelés, d'une manière ou d'une autre, à nous lever. À ne pas rester assis sur le bord du chemin, mais à nous engager sur le milieu du chemin, en plein milieu du chemin, là où lui marche avec ses disciples. Pas simplement spectateur, mais acteur dans la vie de l'Église. Et puissions-nous aussi nous encourager les uns les autres, non pas nous rabrouer les uns les autres, mais nous écouter, nous écouter respectueusement, accueillir la parole de l'autre, la proposition de l'autre, son idée, fraternellement. Bien sûr, on examine, on collabore, on se concerte, on prend des décisions. Toutes les idées, toutes les propositions ne sont pas retenues, mais on travaille dans le respect les uns des autres et dans un esprit d'encouragement. Prends courage, ça c'est une bonne parole. Pas « rassieds-toi, rassieds-toi, tais-toi », mais « prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui se sont levés à l'appel qui leur a été adressé par cette communauté, via la commission de nomination, de manière tout à fait prosaïque. Hein. Mais il y a plus que ça. L'appel de l'homme n'est que le relais de l'appel de Dieu. On est d'accord ? Nous, on ne fait que transmettre l'appel de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui entouraient Bartimée n'ont fait que transmettre l'appel de Jésus. Allez, lève-toi, il t'appelle. Peut-être qu'il va se passer quelque chose là. Il est maintenant debout devant Jésus. C'est alors que Jésus lui pose une question vraiment surprenante. Il a crié de toutes ses forces, voilà, qu'il s'approche. Jésus voit bien qu'il est aveugle. Alors pourquoi lui poser cette question? Puisque la réponse est évidente, hein. Quoique. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je te fasse? Remarquez que la question est vraiment ouverte, hein. Waouh! Il ouvre tout le champ des possibles. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors imaginez, je ne sais pas quel était l'aspect du visage de Bartimée. Peut-être que ses yeux étaient collés, les paupières collées, on ne sait pas. Il n'avait peut-être pas un très bel aspect son visage. On voyait bien qu'il était aveugle. Que veux-tu que je fasse pour toi, cher Bartimée? Comme s'il pouvait désirer autre chose. Mais oui, il le pouvait. Il pouvait désirer autre chose que de retrouver la vue. Des yeux qui voient. Parce que, peut-être tout simplement, il se disait, si je reste aveugle, bon, je conserve mon petit confort, mes habitudes de vie. Hein? Mes amis, ceux qui venaient me chercher à telle heure, tous les jours, pour me conduire au bord du chemin. Je brode un petit peu, mais on peut imaginer le contexte de vie de cet homme. Il fallait être audacieux pour demander la vue. Alors, Jésus pose une question totalement ouverte, j'insiste. Bien que Bartimée est aveugle, il est libre de demander tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut. Imaginez que Jésus vous pose à vous cette question. Toi, que j'ai appelé, que veux-tu maintenant que je fasse pour toi? Voilà, nous sommes face à face. Je t'ai appelé. Tu es là avec moi au milieu du chemin. Tu as bougé. Tu t'es dérangé pour venir à moi. Tu as voulu venir jusque-là. Maintenant, que veux-tu que je fasse pour toi? Ah Seigneur, alors, ouais, il me faut un travail qui rapporte un peu mieux. Hein. Parce qu'en ce moment, ça ne va pas fort. Côté finance, il me faut un métier un peu plus passionnant parce que je m'ennuie au travail. Ou moi, j'aimerais plus de confort. Une maison plus grande. Et pourquoi pas une piscine? Ah, moi, je voudrais devenir célèbre. L'autre jour, j'entendais quelqu'un dire dans une vidéo, « Ah, moi, je suis prêt à vendre mon âme au diable pour être célèbre. » C'est incroyable. La célébrité. Pourquoi court-on après la célébrité? Quelqu'un dit, « Si tu veux faire un mauvais coup à ton meilleur ami, rends-le célèbre. » Bon, je referme la parenthèse. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah, moi, je voudrais un homme à mon goût. Ou une femme à mon goût. Réussir dans mes études. Des affaires prospères. Un beau bébé. Ah, une vie facile dans un pays ensoleillé. Des vacances de rêve, je suis fatigué. J'ai tendance à oublier beaucoup de choses. Une mémoire infaillible. Je voudrais une force herculéenne parce que mon travail l'exige. Ah, moi j'aime l'étude. Donne-moi une intelligence hors du commun. Moi je rêve de vivre longtemps, longtemps. Je suis au coude à coude avec un concurrent. Donne-moi la victoire. Donne-moi de le battre. Ah, moi je vis avec quelqu'un qui n'est pas facile. Change son caractère, s'il te plaît. J'ai un enfant terrible. Tu ne pourrais pas le transformer en enfant sage? Bartimée ne demande qu'une seule chose à Jésus. Mais oui, tout ça a dû traverser son esprit. Je sais. Bon, c'est un autre contexte. Culturel, social, religieux, ce que vous voulez. Mais quand même, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Attendez, il y a une chose. Il faut qu'il soit précis dans sa demande. Eh bien, il sait très bien ce qu'il va demander. Que je recouvre la vue. Maître, Seigneur, que je retrouve la vue. Ah oui, je l'ai dit, retrouver la vue pour un aveugle, c'est changer de vie. C'est changer de vie. Bartimée était donc prêt à vivre une vie nouvelle, à changer ses habitudes. Ok, c'est ce que tu veux ? Et Jésus le guérit instantanément. Et qu'est-ce qui fut donné à ce moment à Bartimée ? Des yeux intègres. Il est redevenu le Bartimée qu'il était censé être, le fils de l'intégrité. De certaine façon, il avait sa fierté. Mes deux yeux fonctionnent. Alors bien sûr, en rapport avec sa situation et sa dépendance. Mais qu'est-ce qui lui a été donné de plus? Il s'y attendrait peut-être même pas. Ça a été la grande surprise pour lui. Là, au moment où il ouvre les yeux. Le visage de Jésus. Quand il ouvre les yeux, c'est sur le visage de Jésus. Alors le texte ne dit pas quel était ce visage, quels étaient les traits de ce visage, mais c'est sur le visage de Jésus qu'il a ouvert les yeux. Et là je trouve ça merveilleux, c'est après avoir vu Jésus qu'il s'est mis à le suivre sur le chemin. Bartimée, dit bien le texte, suivit Jésus dans le chemin. Il n'est plus au bord du chemin, il est au milieu du chemin. Il n'est plus en position passive, statique, il est dans une position dynamique. Il est sur ses deux jambes, il avance, c'est un serviteur maintenant. Il est prêt à servir Jésus parce qu'il a une vision, et pas n'importe laquelle. Il a retrouvé la vue, il est à nouveau pleinement Bartimée. Il peut maintenant se mettre au service de son maître, accomplir sa mission. Et là, je vous dirai une chose importante, c'est que la vision, ce que je vois, ce que je veux obtenir, ce à quoi j'aspire, précède toujours la mission. Ce que je dois faire pour obtenir ce que je veux, ou ce à quoi j'aspire. Et remarquez que c'est après avoir recouvré la vue que Bartimée a suivi Jésus. Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui dans la science dite du marketing. Je me suis un peu renseigné, mais tous les spécialistes du marketing disent qu'il faut une vision avant de mettre en place une quelconque mission. La vision, puis la mission ou le mission statement, selon leur vocabulaire. La mission découle toujours de la vision. Il y a une véritable relation de cause à effet entre les deux. Il faut voir avant de pouvoir marcher, dans le cas de Bartimée, n'est-ce pas ? Marcher à la suite de Jésus. La vision est la cause, la mission est l'effet. Le but de la mission, c'est donc réaliser cette vision. Et la vision de Bartimée, c'est Christ. Christ dans sa vie. Christ à la première place. Christ devant lui. Le visage de Jésus l'a fasciné. Et remarquez une chose dans la Bible, c'est toujours le cas. La vision précède la mission. Une mission bien formulée, c'est celle que le Christ a laissée à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations. Mais là, on est dans une mission. Faites. On fait quelque chose. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Enseignez-leur à garder ce que je vous ai donné. On est dans la mission. Mais pour pouvoir réaliser une telle mission, il faut auparavant une vision du Christ. Ce qui leur a été donné. Parce que Jésus a passé du temps avec eux. Et ils l'ont vu, hein, donc ses disciples l'ont vu s'élever au ciel et rejoindre son Père. Remarquez l'apôtre Paul, la même chose. Ce n'est que lorsqu'il a recouvré la vue, lui aussi était aveugle avant de servir le Seigneur. C'est lorsqu'il a recouvré la vue qu'il a reçu son ordre de mission. Le texte est très très clair. Acte 22, 13 à 15. Juste un extrait de son témoignage. Il dit ceci. Voilà, il rapporte ce qui s'est passé. Ananias vient vers lui et dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin. » Maintenant, la mission après la vision, auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues, etc. Et un peu plus loin, il dira, chapitre 26, verset 19, « Je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Il en est de même pour Moïse, pour Ésaïe. La vision d'abord. Moïse, vous vous souvenez, il se détourne pour, justement, pour observer ce buisson qui brûle de manière étrange. Vision d'abord, puis la mission. Ésaïe également, la vision de Dieu dans son temple, puis la mission. Comme Bartimée, comme Paul, comme Moïse, Ésaïe, nous avons besoin d'une vision divine pour servir notre Maître. Sinon, la mission, notre mission échouera. Alors oui, Jésus nous pose cette question. C'est bien, tu as répondu à mon appel. Maintenant, que veux-tu que je fasse pour toi? Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure réponse que celle de Bartimée. Que je vois. Que je vois, Seigneur. Alors quoi? Voilà ce que je vous propose de répondre au Seigneur. Seigneur, nous voulons te voir tel que tu es, discerner les traits de ton visage. Nous voulons contempler ton caractère, où se rencontrent l'amour avec un grand A et la justice avec un grand J. Comme Moïse, nous demandons à discerner ta gloire, c'est-à-dire ta puissance et ta beauté, ta force et ta pureté. Nous voulons une vision nette de notre condition pécheresse, de notre situation désespérée, de nos besoins spirituels. Et nous confessons nos infirmités, nous soupirons après la guérison. Nous reconnaissons notre manque de foi et te demandons de combler ce manque. Troisième point, Seigneur, nous voulons une vision plus claire du plan du salut. Nous voulons voir la croix sous un jour nouveau, comprendre le sens de la mort de Jésus, sa portée, son universalité, son impact sur notre vie présente et future et sur le monde. Enfin, nous voulons une nouvelle vision du Christ, notre salut et notre justice. Sans lui, nous n'avons pas d'avenir, pas d'espérance. Sans lui, nous sommes sans force, désespérés, perdus. Mais avec lui, tout est possible. Rien ni personne ne peut nous ravir de notre salut, notre joie et notre espérance. Amen.